comme d'habitude, c'est avec notre chronique reconnaissante du mois que nous commençons. Aujourd'hui, Isabelle nous entraîne à l'ombre des arbres de la forêt de Higas, gigantesquement fabuleux projet que je vous laisse découvrir.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio MDM, vous êtes à l'ombre des arbres et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas meilleure place aujourd'hui. Pour ouvrir cette margoguette matinale, je suis en compagnie de Johan et de Franck, de sacrés bonhommes pour un sacré projet. Les pieds bien ancrés dans le sol, ici à Estibeau, les mains dans la terre. Et dans la tête, un espoir et une vision à long terme qui s'incarne dans un projet de plantation, ici et maintenant. Pour nous nourrir dès aujourd'hui, mais encore plus dans les années à venir. Bienvenue à la forêt de Higas pour une petite dose de chlorophylle, de créativité et d'espoir. Alors déjà, un grand merci à vous, Johan et Franck, pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter ce projet de forêt comestible, de forêt nourricière? Comment ça marche?
Alors bonjour, donc moi c'est Johan, je suis le fondateur du projet, on va dire, avec donc mon associé Franck à côté de moi. Et alors, une forêt comestible, c'est vraiment s'inspirer d'une forêt naturelle, en gardant même une grande partie des espèces qu'on peut y trouver. Donc ici dans les Landes, ça va être du chêne pédonculé, ça va être du robinier faux acacia, des espèces qu'on croise justement partout, dans les forêts ancestrales, quoi. Et par contre, on va y ajouter beaucoup d'espèces fruitières, donc du pommier jusqu'au cerisier, en passant par les feijoas aussi quelques agrumes. Et donc le but, c'est d'avoir la plus grande diversité de production possible. Et on va aussi avoir au milieu de cette forêt, comme dans une forêt, des grandes clairières, des zones plus boisées, plus denses, ou qui seront presque impénétrables pour nous. Ce seront seulement les animaux qui pourront aller y pâturer. Et dans ces grandes clairières, dont une principalement qui fera 1 hectare, là on aura du maraîchage. Et donc le maraîchage va occuper une grande partie de notre temps dès maintenant, le temps que les arbres commencent à pousser, puisqu'on part principalement de semis d'arbres, pour avoir des arbres qui vont être vraiment mieux enracinés, donc plus résilients dans le temps. Et donc il va falloir quelques années avant que tout ça ne pousse vraiment. Et on travaille donc beaucoup aussi sur les étages de végétation, sur les strates de végétation. Donc par exemple, on peut avoir des plantes qui poussent dans le sol, comme les carottes ou les pommes de terre. Au-dessus, on va avoir des fraises ou de la menthe. Au-dessus, on va avoir un groseillier. Au-dessus, on va avoir un pied de tomate ou même un pied de courgette en bas. Et au-dessus, on va avoir un noisetier et pourquoi pas un pommier encore au-dessus. Ce qui permet d'avoir sur une même surface beaucoup plus de variété qu'en maraîchage traditionnel.
Et Franck, tu vas pouvoir nous préciser peut-être la place des animaux aussi. Il y aura à terme la présence d'animaux, mais on ne parle pas à proprement parler d'exploitation.
Voilà, bonjour, moi c'est Franck, donc je suis le complice, comparse de Johan, que je connais maintenant depuis 5 ans. Et lorsqu'il m'a expliqué un peu le projet qu'il voulait faire, je lui ai proposé mon aide, qu'il a accepté. Formidable. Et puis donc ce projet, alors il a parlé de tout ce qui était le végétal. Bon, au niveau de l'animal, il est hors de question de commencer à faire de l'élevage. Nous ne serons pas pour faire un élevage, nous allons incorporer les animaux, alors que ce soit les gallinacées, que ce soit de la poule, que ce soit du mouton, que ce soit du vache, mais il y aura toujours un nombre restreint d'animaux. Les animaux seront ici rois. Nous allons faire, comme disait Johan tout à l'heure, un peu une arche de Noé. On ne va pas faire de la poule, du poulet, pour faire de l'abattage, pour fournir les magasins, pour fournir les... Il y aura de l'abattage lorsque le nombre d'animaux par catégorie, on va appeler ça une catégorie, dépassera ce que le terrain peut accepter. C'est le terrain et ce sont les animaux qui commanderont en fait la quantité.
On parle finalement d'équilibre et sur la surface et sur le lien finalement qu'il y a entre les animaux et le végétal.
C'est ça, il faut vraiment avoir un équilibre presque parfait puisque les animaux, le but c'est qu'ils se nourrissent exclusivement de ce qui pousse sur le site, donc sans aucun apport alimentaire. Donc c'est vraiment les laisser vivre naturellement et donc les laisser se reproduire aussi naturellement. Et donc, au bout d'un moment, il va y avoir forcément un déséquilibre. Si on les laisse se reproduire sans rien faire, il n'y aura plus assez de plantes pour qu'ils se nourrissent sur le site, quoi. Donc, le but, c'est vraiment de garder un équilibre végétal-animal.
Quand j'ai cherché des informations avant de venir vous rencontrer, moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le parallèle dans les ordres de grandeur. Parce que à la fois, le projet est quand même assez ambitieux, on parle de 7 hectares, les chiffres que j'ai trouvés sur votre site, c'est 60 000 arbres à planter, 150 espèces animales, 7 000 variétés végétales, donc c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, en parallèle, je trouve que les réactions que le projet suscite sont aussi très importantes, puisque vous avez eu une couverture médiatique finalement très large. Alors, il y a les médias localement qu'on connaît, mais il y a aussi eu une très très belle audience au niveau national. Est-ce que vous vous attendiez à cet intérêt-là ?
Alors là, ça a été une grande surprise, puisque en fait, ça s'est passé ça à peu près au début du premier confinement. Et moi, je montais mon projet comme je faisais depuis longtemps et je communiquais sur Internet comme je faisais déjà depuis 2 ans. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une journaliste, donc de la Relève et la Peste pour ne pas les nommer, donc qui voulait faire un article. Donc j'ai répondu oui, avec plaisir. Et le jour où l'article est sorti, alors là, ça a été une avalanche. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours tellement ça a été un harcèlement, mais c'était phénoménal. J'ai mis une semaine, voire plus, à répondre à tous les mails que j'avais reçus, et là, ça ne s'est pas arrêté de s'enchaîner, interview, sur reportage. Donc là, il a fallu apprendre beaucoup de choses aussi, puisque ça, c'était pas mon métier du tout, je pense Franck non plus.
Du tout.
Et donc là, ouais, non, ça a été une totale surprise, et par contre, ça a été aussi boostant, et ça nous a aussi aidé à rester motivés tout le long, parce qu'au niveau de la phase administrative, ça n'a pas été facile et très très long. Et du coup, c'est ce qui nous a aidé aussi de recevoir des messages d'encouragement et tout, des gens qui croient au projet, qui sont prêts à nous aider au projet et tout. C'est vraiment important. Et, déjà, ça fait chaud au cœur.
Ouais.
Et on se sent soutenu et ça nous permet d'aller plus vers l'avant.
Encore de l'avant. Et est-ce que pour vous, alors ma question elle est un peu orientée, c'est vrai que c'est un peu la philosophie qu'on a à l'Association des Jardins Reconnaissants, mais je me dis, est-ce que finalement c'est pas lié à un besoin d'espoir, parce qu'on est tous face à l'urgence climatique, et là finalement vous proposez la création de Noasis, donc on a envie d'y croire et on a besoin d'y croire.
C'est ça, on a réfléchi à un projet justement en prévision, qui répond aux enjeux actuels, mais aussi à venir, donc en essayant de prendre en compte le réchauffement climatique et essayer, comme vous dites, de sortir de ça une oasis qui, elle, serait autonome et résiliente face à tous ces changements, mais là, ça reste un espoir. On espère que ça fonctionne, je pense qu'on a assez bien réfléchi le projet pour avoir une chance, et si ça fonctionne pas, par contre, là, après, je sais plus quoi faire.
Oui, parce que quand on arrive sur le site, on voit tout le travail, il y a les arbres prêts à planter, je pense qu'effectivement c'est bien parti. Alors, vous en avez parlé des difficultés administratives, être dans l'action c'est aussi être créatif, être inventif, c'est votre quotidien sur l'exploitation, mais c'est aussi ouvrir un chemin. Je lisais sur votre site l'exemple de la dénomination forêt comestible qui n'existait pas au départ, à la Chambre de l'Agriculture. Et finalement, ça a été créé grâce à vous.
C'est ça.
C'est assez énorme.
En fait, la Chambre de l'Agriculture, notre conseillère à la Chambre de l'Agriculture s'est arraché les cheveux pendant 1 an à essayer de nous faire rentrer dans des cases dans lesquelles on ne correspondait pas. Puisque soit on avait trop d'arbres, soit on avait trop... Enfin, ça ne rentrait pas dans les cases. Et du coup, en parlant sur les réseaux sociaux, ça a dû arriver aux oreilles du président de la Chambre d'Agriculture. Et donc là, assez rapidement, quelque chose a été fait et ils nous ont créé la case forêt comestible dans les possibilités d'installation agricole. Donc pour nous, ça ne change pas grand-chose, à part d'être moins limité dans nos installations, parce que sinon c'était vraiment des consignes strictes à respecter qui auraient été très compliquées. Mais par contre, ça ouvre surtout un chemin pour les autres futurs porteurs de projets qui veulent se lancer en forêt comestible. Déjà, par rapport à nous, ils gagneront 1 an. Quoi.
Ce qui n'est pas rien. L'arbre pousse en 1 an, si on a le droit de le planter. Du coup, quand on a le courage d'inventer un chemin, d'expérimenter de nouvelles pratiques, on sort des cases, comme tu viens de le dire, et parfois l'aspect financier peut être un peu plus long à finaliser. On peut, on va dire, inviter les auditeurs qui le peuvent et qui le souhaitent. Vous avez ouvert une cagnotte sur Eloasso, justement en attendant, pour vous soutenir, en attendant le déclenchement du prêt, et ça va vous permettre du coup d'enchaîner les travaux.
C'est
sans
ça.
Pause.
C'est ça, parce que bah, en attendant qu'on ait le prêt et qu'on puisse vraiment se lancer officiellement, là c'est la pleine période où il faut installer le maraîchage, où il faut planter des arbres. Et donc bah, si on veut avancer et pas perdre une année encore, bah, c'est là où on a encore un peu besoin de votre soutien pour pouvoir planter ces arbres et avancer sur le terrain en attendant pour pouvoir lancer les productions de cet été, quoi.
Bon, donc n'oubliez pas, sur le site Hello Asso, on tape forêt de Higas et on peut donner un coup de main pour la réalisation de cette oasis ici dans les Landes. Alors, on arrive maintenant au cœur de cette chronique. On va parler de ce qui vous réunit tous les deux, de ce qui nous réunit ce matin et de ce qui va bien vous occuper dans les mois et les années à venir. C'est les arbres. Alors, il y a trois questions rituelles désormais dans cette chronique. La première, c'est les racines. Un souvenir, une émotion, une anecdote de vous, enfant ou adolescent, avec les arbres, avec la nature.
Ah. Donc, bien pour moi, c'est le souvenir, en fait, c'est plutôt le manque de végétal que j'ai eu autour de moi. Bon, j'habitais dans le nord de la France, enfin le Pas-de-Calais exactement. Mon premier logement que je me souviens, c'était dans un bâtiment, en pleine ville. Donc, mis à part le parc municipal qui se trouvait à 3-4 km, ben, des arbres, il n'y en avait pas beaucoup. Beaucoup de trottoirs, de maisons, de villes, mais pas beaucoup de verdure. Ensuite, mes parents ont fait bâtir à l'extérieur de la ville, c'était un lotissement. Seulement, dans les lotissements, ben, oui, on plante des arbres, on met un peu d'herbe. Mais le temps que les arbres prennent de leur maturité, ben, moi, j'ai quitté le quartier, je n'ai jamais vu un arbre qui faisait plus de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc pour moi, de hauteur, je parle, hein, le tronc, je n'en parle même pas. Donc en fait, ben, mon souvenir d'enfance, ben, c'est ce manque de verdure. Voilà.
Ouais. Il y a de la mise à jour aujourd'hui, de l'équilibre.
Alors moi, l'arbre de mon enfance, c'est un arbre, c'était un grand peuplier qui était penché au-dessus de la Seine, parce que je suis originaire de Champagne-Ardenne. Et il y avait eu une échelle construite dessus et qui nous a servi de plongeoire de toute mon enfance, adolescence, et d'où on sautait jusqu'à 19 mètres. Donc oui. Vous imaginez qu'on s'amusait très très bien là-bas.
Excellent. La deuxième question, on revient à aujourd'hui et maintenant. Alors, un arbre chacun que vous avez envie de mettre en avant pour son intérêt, son esthétique ou parce que c'est un coup de cœur. Franck.
Eh bien, pour moi, ça sera le noyer. Mais le noyer commun, je ne veux pas commencer à partir dans telle variété ou de telle variété. Le noyer commun, il pousse très bien dans les Landes. J'en ai d'ailleurs quelques-uns chez moi dans un bois qui m'appartient. Et pourquoi le noyer ? Ben parce que son bois est très recherché en ébénisterie. Mais ça, on va parler de la fin de vie de cet arbre. Mais tout le temps qu'il est en vie, eh ben, il nous donne ses noix, ses fruits, riches en huile, son brou, oui, qui sert encore de teinture à l'heure actuelle. Au lieu d'aller le chercher à l'autre bout du monde, on peut en avoir ici en France. Ses feuilles, qui peuvent servir aux usages médicinaux.
D'accord.
On se sert des feuilles, l'extrait de feuilles sert énormément dans tout ce qui est la médecine. Et puis bon, ben, le noyer, en fait, c'est un arbre civilisateur. Donc c'est très bien, il doit avoir sa place parmi nous.
D'accord, Johan ?
Alors moi, ce sera le chêne pédonculé, qui est ancestral ici. Et donc de un, par sa beauté, sa majestuosité. C'est un arbre énorme, et c'est un arbre très résilient, qui vit des siècles et des siècles, et qui a l'avantage aussi, lui, de produire des glands, alors qu'on utilise très peu, mais qui peuvent être utilisés. On peut faire de la farine de glands. Et je pense que c'est aussi une voie à utiliser pour l'avenir. On sait que les céréales, c'est de plus en plus compliqué. On a bien vu là le cours des céréales, ce que ça a fait. Et utiliser plus de farine, comme ça, alternative, peut être aussi une solution d'avenir.
Plein d'idées à explorer. Et enfin, la dernière question, ma préférée, forcément, hashtag gourmandise, quel arbre fruitier, quels arbustes fruitiers vous pouvez conseiller aux auditeurs, aux auditrices de Radio MDM ?
Ah ben, pour moi, c'est l'abricotier. Ah ben, pour la gourmandise. L'abricot, vous le mangez frais, vous allez le cueillir directement sur l'arbre, vous le mangez frais, vous le récupérez pour faire de la pâtisserie. Et puis même les abricots qui sont un peu tordus, un peu tachés, ben vous en faites de très bonnes confitures. Donc pour moi, ben, qui suis gourmand, l'abricotier, c'est mon arbre.
Et du coup, c'est le fruit qui pourrait bien représenter aussi le projet global ici d'utilisation sur toute la ligne. Johan.
Eh ben, alors moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir un arbre en particulier, parce que tous les fruits sont bons. Du coup, je n'ai choisi un, parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas, juste pour ça. Donc c'est le feijoa, donc le goyavier du Brésil, qui est très bien adapté ici, qui produit très très bien, qui fait des fruits aussi excellents. Et bah, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur le feijoa et vous verrez que c'est quelque chose de très intéressant.
Très très bien. Et alors la dernière émission, on a rencontré nos amis des Jardins Naïfs de Carcarès et qui nous expliquaient qu'ils allaient en mettre en production sur leur pépinière. Donc en plus voilà, on vous fournit aussi l'adresse pour aller en chercher si vous voulez en planter chez vous. Merci beaucoup tous les deux pour cet échange. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très très belle journée. À vous Margot, à vous les studios.
De retour en studio, merci Isabelle pour cette chronique qui donne le sourire et nous autorise à renouer avec l'espoir d'un avenir un peu plus doux que celui que l'on nous prédit. Douceur toujours et groove en prime dans un futur tout proche avec la très chouette Camp Claude et son titre Hero.